Seigneur notre Dieu veuille nous assister par ton Saint-Esprit afin que dans notre réflexion nous puissions suivre fidèlement l'enseignement de ta parole. Nous te demandons cela pour l'amour de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Nous allons commencer aujourd'hui et poursuivre pendant peut-être encore deux ou trois mercredi une réflexion sur loi et évangile. Je voudrais aujourd'hui parvenir à une définition provisoire du sens dans lequel nous allons entendre ces mots loi et évangile au long de ces trois ou quatre mots. En effet, ces mots sont susceptibles d'une certaine variété de sens, comme d'ailleurs beaucoup d'autres mots. Et il est important, au moins pour le départ de notre réflexion, de tenir une définition au moins provisoire. Je commencerai par le mot loi, mais on pourrait aussi bien sûr, commencer par le mot évangile. Parce que, nous le verrons, la loi et l'évangile sont dans le contexte de l'Alliance deux mots inséparables, complémentaires, et le sens de chacun de ces deux mots rejaillit sur le sens de l'autre. Si vous voulez, on pourrait dire que évangile et loi se tiennent comme l'avers et le revers d'une pièce de monnaie, ou comme l'avers et le revers d'une médaille. Donc, nous allons concevoir ce qu'est la loi et ce qu'est l'évangile dans le contexte de l'Alliance. Pour la théologie chrétienne, déjà chez les pères, mais ensuite chez les réformateurs, le concept d'alliance est le concept fondamental, ou l'un des concepts fondamentaux en ce qui concerne l'Écriture. Car l'Écriture sainte est le traité d'alliance entre Dieu et le genre humain. Donc, avant de donner les définitions provisoires de la loi et de l'évangile, il faut se référer à la définition de l'alliance. Je le répète, l'alliance, ou le traité d'alliance, c'est le tout. Et la loi et l'évangile sont l'avers et le revers de l'alliance. Si vous voulez, on peut dire que l'alliance comprend inséparablement loi et évangile. Nous avons, avec ces trois concepts, la clé de l'intelligence de la vie. Vous savez que le mot alliance se dit en hébreu « brit », c'est le mot diapété, et dans la Vulgate latine, dans la traduction latine, on a mis testamentum, si bien que par exemple, vous trouverez en tête d'un Nouveau Testament grec et kainé diapété, c'est-à-dire le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance, et vous verrez l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est une manière latine finalement de dire l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Et cette alliance entre Dieu et l'homme, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en parler aujourd'hui, commence dès la création de l'homme. Dieu établit entre lui et Adam une alliance. Et donc, dans cette alliance, il y a un aspect évangile et un aspect loi. Dieu établit avec Adam, dès la création d'Adam, une alliance. Cette alliance, je le répète, comporte inévitablement un aspect évangile et un aspect loi. De même que le traité d'alliance qui est la Bible comporte tout au long un aspect loi et un aspect évangile. La loi, vous le savez, en hébreu, c'est Torah. En grec, c'est nomos. Et le mot loi, le mot nomos, le mot Torah, que nous allons approcher maintenant, est un mot dont il faut bien saisir la signification. Nous, quand nous pensons à loi, nous avons tendance inévitablement à penser à un code comportant des articles où nous pensons à des commandements. Mais nous allons le voir, le mot Torah et le mot Nomos dans le Nouveau Testament, ce n'est pas une suite d'articles de code. Et ce n'est pas non plus une suite de commandements. Même si la loi a été résumée en quelque sorte selon les 10 paroles que nous appelons les 10 commandements, mais dans le texte hébraïque, il s'agit des 10 paroles. Et même si il y a un sommet du sommaire de la loi qui est le décalogue, avec les deux commandements soulignés par Jésus, mais qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Jésus a recueilli dans l'Ancien Testament les deux paroles, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La condensation de l'ensemble de la loi dans le décalogue et la condensation du décalogue dans ce que nous appelons le sommaire de la loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ne doit pas cependant nous faire concevoir la loi simplement comme une suite ou un ensemble de commandements. Le mot Torah, d'ailleurs, pourrait très bien être traduit, non pas par la loi en français, qui, je le répète, fait inévitablement penser à un code d'article, mais signifie instruction ou doctrine ou encore au langue française, peut-être que c'est dans le français moderne ce qui correspondait le mieux au mot Torah, par directive. Directive pour la pensée, directive pour la vie. Directive pour la vie personnelle, individuelle, ou directive pour la vie communautaire, sociale. Et, de ce point de vue, nous voyons que toute la vie, de la première à la dernière page, peut être dite Torah, peut être dite instruction, peut être dite directive, peut être dite loi. La loi, c'est l'avers de cette monnaie, de cette médaille unique qui est l'Écriture sainte. Et nous le verrons, on ne peut pas faire abstraction de la loi sans situer la loi dans le contexte de l'ensemble de l'Écriture, ou plutôt sans voir toute l'Écriture comme loi, mais en rapport inévitable avec l'Évangile. Dans une médaille, dans une monnaie, vous ne pouvez pas finalement ôter, séparer, abstraire la verre sans porter atteinte au revers, et vice-versa. En un sens, nous pouvons regarder la pièce ou regarder la monnaie du côté de sa face, du côté de son navet, ou nous pouvons regarder la pièce du côté de son revers, de son côté pile. Mais en fait, l'avers ne va pas sans le revers ne va pas sans l'avers, vous ne pouvez pas tailler du côté face sans atteindre du même coup le côté pile, et vous ne pouvez pas toucher au côté pile sans toucher au côté face. C'est inséparable. Et c'est pourquoi il va falloir faire très attention à trouver, si l'on peut, une définition provisoire du mot loi qui ne sépare pas le concept loi du concept évangile et qui oublie que l'ensemble loi évangile, c'est l'alliance. Alors vous voyez, nous sommes très loin de dire la loi, c'est l'ensemble des commandements. D'ailleurs, dans le fameux texte qu'on emploie quelquefois pour indiquer que la Bible est la parole de Dieu, le texte de la seconde lettre de Paul à Timothée, au chapitre 3, verset 7. Vous laissez tous par cœur ce passage. Toute écriture est, alors là c'est le mot Théopneustos qui est employé, toute l'écriture est soufflée de Dieu. C'est difficile de traduire. Le mot inspiré ne rend pas le mot grec. Théopneustos n'a jamais voulu signifier inspiré au sens où nous parlons de l'inspiration d'un écrit. Non. C'est soufflé de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui constitue, qui écrit en quelque sorte l'écriture. Toute écriture est soufflée de Dieu. Bon, enfin, notre propos à ce moment-là, c'est pas de parler de ce que l'on appelle quelquefois l'inspiration de l'écriture, c'est de voir toute l'écriture est utile pour enseigner, là on voit en effet le mot instruction, est utile pour enseigner, convaincre, dresser, éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Eh bien, on voit bien, c'est un texte qui nous montre bien que l'ensemble de l'Écriture sainte est loi, puisque l'ensemble de l'Écriture sainte va permettre à l'homme de Dieu enfant que toute œuvre bonne. Toute l'écriture. Il ne s'agit pas des commandements seulement, mais toute l'écriture est utile pour éduquer l'homme de Dieu et l'adapter, le mettre, je dirais, en mesure d'accomplir toute bonne œuvre, toute œuvre. Alors nous, quel que soit ce que nous lisions de l'Écriture, d'une certaine manière, c'est loi, même s'il ne s'agit pas de commandement. Par exemple, il nous est dit que Dieu a créé l'homme à son image. C'est pas un commandement, ça. Mais c'est très important à savoir pour la conduite de notre vie. Savoir qu'on est image de Dieu, savoir, puisque je suis homme, que je suis image de Dieu, c'est déjà quelque chose qui m'implique dans l'éthique, qui m'implique dans la conduite de ma vie, dans la manière de vivre. Je suis appelé à vivre en image de Dieu, du Dieu qui est lumière, du Dieu qui est amour, du Dieu qui est saint. Soyez saints comme je suis saint. C'est une des paroles qui est répétée à plusieurs reprises, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Eh bien, c'est quelque chose qui se trouve tout au long de la Bible. La Bible tout entière nous dit « Soyez saints comme je suis saint ». Et en nous parlant de la sainteté de Dieu, la Bible nous propulse comme loi de Dieu. Donc, vous voyez que toute l'Écriture sainte, en tant que traité de l'Alliance, est loi de Dieu. Mais, je le répète, loi de Dieu inséparable de l'Évangile de Dieu. Dès la première page, dès les deux, trois premières pages de la Bible, disons, dans les trois premiers chapitres de la Bible, eh bien, il nous est montré qu'Adam est établi en alliance avec Dieu et les paroles de ces trois chapitres, le texte de ces trois chapitres est tout entier texte d'évangile, de bonne nouvelle, nous allons parler du sens du mot évangile dans un instant, et c'est tout entier loi. Il y a la loi de Dieu transpire en quelque sorte dans les trois premières pages de la Bible. Mais l'évangile de Dieu transpire aussi tout au long de ces trois premières pages. On pourrait donner donc comme première définition provisoire de la loi, approximative, c'est un début. Enfin, pour toujours commencer par un début, on pourrait dire que la loi donne instruction de vie à l'homme et aux hommes de l'Alliance. Qui, en tant que tels, reçoivent aussi l'Évangile. Je répète, la loi donne instruction de vie, instruction éthique à l'homme ou aux hommes de l'Alliance qui ont reçu du même coup l'Évangile. Toute la Bible est loi. Toute la Bible. la Bible est aussi évangile. Vous savez que le mot évangélion, c'est un mot qui était utilisé au premier siècle pour désigner une nouvelle, une bonne nouvelle concernant César, l'empereur, ou la famille impériale. C'est cela le sens du mot évangélion en grec, dans le grec courant des premiers siècles, dans la Koinonia, eh bien, il était question de l'évangile qui était apporté par des héros. Hein, le mot héros est écrit comme ça. Qui était apporté par des héros dans les villes, dans les villages, quand il s'agissait d'annoncer une victoire de l'armée impériale sur des adversaires, ou la bonne nouvelle de la mort d'un adversaire, ou la bonne nouvelle tout simplement d'une naissance ou d'un mariage, d'un événement dans la vie de César. Et c'est ce mot courant au premier siècle d'évangélion qui a été employé par les auteurs du Nouveau Testament pour désigner la bonne nouvelle de celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, on avait un verbe, bassar. Et ce verbe bassar, avec un signe, pas avec un chine, hein, c'était un verbe qui disait annoncer une bonne nouvelle. Et précisément, c'était déjà aussi employé dans le Nouveau Testament, dans des nouvelles concernant la famille royale. Je prends simplement deux exemples, tous les deux tirés du livre de Samuel, dans 2 Samuel au chapitre 18 et au verset 19 et suivant, on a Ahimaaz qui va annoncer à David ce qu'il croit être une bonne nouvelle pour David, à savoir la mort d'Absalom, son fils rebelle. Vous savez que à Louis de cette bonne nouvelle, en réalité, David pleure sur la mort de son fils Absalom. Et vous voyez, c'est tout à fait dans le même sens avec ce verbe passard, on a exactement le pendant de ce qui était évangélisé, le mot grec, quand il s'agissait de la bonne nouvelle concernant, quelle qu'elle fût, concernant la famille impériale. L'autre exemple, dans 2 Samuel 31:9, eh bien, il est dit que, le verbe bassar est employé, que les Philistins annoncent la bonne nouvelle de la mort du roi Saül. Donc, vous voyez, dans l'Ancien Testament, annoncer une bonne nouvelle, c'est déjà, avec le verbe bassar, puisque c'est un verbe qui, dans, signifie, ensemble, annoncer une bonne nouvelle. On n'a pas besoin d'employer plusieurs mots, annoncer la bonne nouvelle. Le verbe bassar, à lui seul, signifie annoncer une bonne nouvelle. Voilà. Et alors, on parle des annonciateurs de la bonne nouvelle, mais là encore, en hébreu, c'est pas annonciateur de la bonne nouvelle, on emploie ce même verbe pour celui qui annonce la bonne nouvelle, pour désigner l'annonciateur. Vous savez, par exemple, un exemple encore plus frappant, c'est dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 52, et au premier verset d'ailleurs, verset du chapitre 52, dans lequel vous avez qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Oui, celui qui annonce la bonne nouvelle. Et c'est tout simplement une des formes du verbe bassar qui est employé là. Annoncer la bonne nouvelle. Un verbe pour dire tout cet ensemble, annoncer la bonne nouvelle. Eh bien, le verbe évangélisestai dans le Nouveau Testament signifie la même chose. Annoncer une bonne nouvelle. C'est le pendant du verbe hébreu bassar. Alors, bien sûr, là il ne s'agit pas dans le Nouveau Testament d'annoncer une bonne nouvelle concernant César, mais il s'agit d'une bonne nouvelle concernant le Christ. Et vous savez que dans le Nouveau Testament, vous avez continuellement un rapport entre les mots qui concernaient César et les mots qui concernaient le Christ. Continuellement, vous avez ce rapport. Et c'est important, par exemple, c'était courant de dire César, Curios, César et le Seigneur. Et le Nouveau Testament dit Christos, Curios. C'est le Christ qui est le Seigneur. Et c'est ce qui explique la fameuse phrase du Christ. Au moment où il demande complètement une pièce de renée, il demande à quel effigie cette pièce de renée, et puis Jésus dit, rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui ne veut aucunement dire, comme on a voulu l'entendre des fois, qu'il y a une séparation entre un domaine qui serait le domaine de César et un autre domaine qui serait le domaine de Dieu, mais ce qui signifie, puisque vous payez, vous rendez, vous donnez, vous offrez, vous sacrifiez, à César, ce qui est à César, eh bien, vous devez vous donner, vous qui êtes image de Dieu, vous devez vous donner totalement, entièrement à Dieu. Donc le sens, c'est une sorte de parabole, de même que la pièce frappée à l'effigie de César est donnée en impôt à César, de même vous qui êtes image de Dieu, vous devez vous offrir, vous donner à Dieu. Donc le sens, c'est pas ce qu'on appelle un sens de séparation, domaine de César, domaine de Dieu, mais le sens, c'est une parabole, de même qu'on donne en impôt à César en payant cet impôt par les pièces qui sont frappées, de même, nous devons nous donner dans notre vie tout entière à celui qui est notre Seigneur, et qui est Dieu, et qui est Jésus-Christ. Alors, c'est important de voir la portée de ce mot évangile. Et on pourrait donner cette définition provisoire du mot évangélion. L'évangile présente la bonne nouvelle du règne de Dieu à l'homme ou aux hommes de l'alliance qui reçoivent ou qui ont reçu aussi la loi de Dieu. Alors, déjà, nous sommes un peu éclairés. Nous sommes éclairés sur, la nécessité pour nous de ne pas abstraire, de ne pas séparer l'évangile de la loi et la loi de l'évangile. Parce que dans l'alliance entre Dieu et l'homme, ou entre Dieu et les hommes, ou entre Dieu et le genre humain, dans cette alliance, tout ce que Dieu dit a une portée d'évangile, et une portée de loi. Je ne peux pas abstraire la loi de l'Évangile, c'est-à-dire écouter la loi sans écouter aussi l'Évangile, et je ne peux pas recevoir l'Évangile, écouter l'Évangile, sans recevoir en même temps la loi. Ça va ensemble. Je vous ai dit, il y a trois semaines, que je tâcherai d'abréger la partie exposée de mon cours pour permettre un échange. Alors vous, je ne vais pas aller beaucoup plus loin ce matin, peut-être 5 minutes encore, et comme ça il nous restera, si je compte bien, 20-25 minutes, en tout cas, nous pourrons échanger. Alors nous allons, si vous voulez bien, parler un peu d'Adam. Parce que, en oubliant ce qu'est l'alliance, et en oubliant ce que sont inséparablement dans l'alliance la loi et l'évangile, on a parlé au sujet d'Adam de choses extrêmement dangereuses. On a parlé ainsi qu'il y aurait eu entre Dieu et Adam une alliance des œuvres. Et ce qui voudrait dire que Adam aurait connu le salut, la plénitude de la communion avec Dieu par ses œuvres. Comme si Adam n'avait pas reçu de Dieu des paroles d'alliance qui soient en même temps des paroles d'évangile et des paroles de loi. C'est très important. Parce qu'alors, on pourrait dire, si Dieu avait traité avec Adam une alliance des œuvres, ça aurait fait d'Adam, sinon un pélagien, au moins un arminien. Mais pas du tout. Reprenons un peu, et je ne vais en parler que pendant quelques minutes, essayons de voir quelle est cette situation d'Adam dans les premières pages de la Bible. Et, je le répète, d'Adam avant la chute. D'Adam avant la chute. Le mot alliance n'est pas employé au début de la chute. Le mot alliance, Borit, n'apparaîtra au chapitre 6 de la Genèse, au moment de Noé. D'ailleurs, on se trouve là devant un verbe que je vous ai marqué là, le verbe koum. Et ce verbe koum est employé dans le texte de Genèse 6. Au mode et généralement, je dis généralement pas toujours, mais généralement on a traduit ce verset de la Genèse, je répète, Genèse au chapitre 6 et au verset 18. On a traduit le verbe cum, où il file, par établir. Avec toi, j'établirai mon alliance. Mon alliance, avec toi. Or, dans un bon nombre de passages de l'Écriture sainte, pouvez vous référer pour cela à un dictionnaire encyclopédique de l'hébreu, vous verrez que dans beaucoup de passages, et en tout cas précisément au Yifil, le verbe koum n'est pas traduit par établir, mais par confirmer. Si bien que dans ce passage de Genèse 6, 18, comme d'ailleurs dans plusieurs autres passages, il faudrait plutôt traduire par confirmer ou par ratifier. Bon, ceci dit, en passant, c'est pour vous dire que l'alliance entre Dieu et l'homme ne commence pas avec Noé, dont il est question au chapitre 6 de la Genèse, mais avec Adam. Il n'y a pas le mot alliance, mais il y a tout ce qu'il faut pour qu'il y ait alliance. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'il y ait alliance. Et c'est pourquoi c'est important de bien saisir cela. D'ailleurs, plusieurs des pères avaient compris le verbe « cum » au mot « difficile » comme signifiant « confirmer, ratifier ». Et même au XVIe siècle, par exemple, dans sa traduction latine de l'Ancien Testament, Théodore de Bèze, qui était l'ami et puis ensuite le successeur de Calvin, a traduit ce verset en disant « Stabiliam fidus meum promiscum, je rendrai stable » c'est la même chose que je confirmerai, « je rendrai stable mon alliance avec vous. » L'alliance entre moi et vous. En fait, Adam ne peut tenir dans l'alliance avec Dieu qu'en se fiant, qu'en se confiant à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu exige, demande d'Adam foi pleine et entière en la parole de Dieu. Et la chute va précisément consister dans le manque de foi d'Adam et plus exactement par le rejet d'Adam qui rejette la loi de Dieu, qui désobéit au commandement de Dieu. Commandement de Dieu qui lui avait dit « Tu mangeras de tous les arbres du jardin, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que connaître le bien et le mal, discerner le bien et le mal, déclarer le bien et le mal, c'est une prérogative exclusive de Dieu. Dieu seul définit le bien et le mal. L'homme ne peut pas et ne doit pas décider ceci est bien ou ceci est mal. C'est Dieu qui donne sa loi à Adam et qui, en même temps qu'il donne sa loi, lui donne son évangile, à savoir, je suis ton roi, je suis ton Dieu, je suis ton créateur. Et il y a une promesse et une menace en même temps. La promesse est, si tu m'es fidèle, si tu gardes foi en moi, eh bien, tu vivras. Tu mangeras, tu pourras manger de l'arbre de la vie. Mais si tu me désobéis, c'est ça la menace, tu mourras. Donc nous nous trouvons vraiment devant une alliance avec des promesses, avec des menaces, et surtout une alliance avec la bonne nouvelle du règne de Dieu, et la loi. Voilà donc dans quelle situation tout le monde. Adam est dans une situation de grâce. Et là, c'est important pour notre faculté. Vous savez que la faculté de théologie réformée dans cette tendance a une charte, qui est la confession de foi des églises réformées en France. Confession de 1559, ça devrait dire d'ailleurs plutôt. Non, pas quoi. C'est la confession qui a été pleinement ratifiée en 1571 au synode de La Rochelle. Or, c'est très intéressant de voir qu'en ce qui concerne la chute, il est dit qu'Adam a rejeté, c'est ce que dit notre confession de foi, a rejeté la grâce de Dieu. Adam n'est pas en relation avec Dieu par une sorte d'alliance des œuvres, il est en relation avec Dieu par une alliance de grâce. Et c'est très important, dès qu'il y a alliance de grâce, il y a la bonne nouvelle que Dieu est Dieu, que Dieu seul peut tout garantir par sa parole, et l'homme doit être fidèle à cette parole. Donc, nous sommes dans une situation qui nous fait rejeter, qui doit nous faire rejeter toute idée que l'alliance entre Dieu et Adam aurait été une alliance des œuvres. C'est une alliance de grâce, c'est l'alliance de grâce entre Dieu et le genre humain. Et il faut que l'homme soit fidèle à cette alliance de grâce, parce que s'il n'est pas fidèle à cette alliance de grâce, il y a l'avertissement, tu mourras. Tu mourras pas seulement de la mort physique, mais tu mourras aussi de la mort spirituelle. Et depuis Adam, d'une certaine façon, nous naissons morts spirituellement. Et nous avons besoin de cette première résurrection qui est justement la nouvelle naissance. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il nous faut prendre provisoirement des définitions suffisamment larges et de la loi et de l'évangile. L'évangile présente la bonne nouvelle du règne de Dieu à l'homme ou aux hommes de la terre. Et bien, il y a cet évangile de la bonne nouvelle du règne de Dieu qui est annoncé à Adam. Adam est placé dans l'alliance, c'est-à-dire à la fois sous l'évangile et sous la loi de Dieu. Et c'est pour ça que ce qui est très mystérieux, ce qui est à la fois inexplicable et inexcusable, c'est le péché d'Adam. C'est inexplicable, parce que s'il y avait une quelconque explication au péché d'Adam, c'est-à-dire s'il y avait une quelconque explication de la chute, il y aurait pour le genre humain une excuse. Si le péché s'expliquait, l'homme serait du même coup excusé. Ce qui rend l'homme inexcusable, c'est que son péché est inexplicable. Voilà, alors je m'arrête. Nous avons 20 minutes à peu près, et la seule chose que je vous demande, c'est de rester dans vos interventions, dans vos réflexions que vous émettrez, de rester dans le cadre de ce que j'ai dit jusqu'à présent. Je vous explique pourquoi, parce que c'est au fond le premier coup sur loi et évangile, mais il y en aura trois ou quatre. Donc, je ne répondrai que dans la mesure où on reste dans le domaine suffisamment large que j'ai marqué aujourd'hui. Hein. Alors, qu'est-ce qui demande la parole? Alors, la seule chose que je vous demanderai, parce qu'on m'a remis gentiment la liste de tous vos noms, je voudrais que vous me donniez votre nom quand vous intervenez. Votre nom?
Raymond Ponce.
Attendez, Raymond
Ponce. P-O-N.
Voilà, Raymond Ponce. Voilà, c'est d'accord. Alors, Raymond Ponce. Allez.
Voulez-vous demander quelle est la lecture et l'interprétation qui ont mené à cette théorie de l'alliance des œuvres avec Adam?
C'est une bonne question, et c'est pour ça que je me permets de réfléchir un peu, parce que je ne veux pas vous écrire en erreur. En ce qui concerne les pères de l'Église, je ne crois pas que l'expression alliance des œuvres ait jamais été entendue. Au départ de la réforme, elle n'est pas employée non plus. Vous ne trouverez pas l'idée d'une alliance des œuvres dans la confession de foi des Églises réformées en France, mais vous ne la trouverez pas non plus dans la Belgica, dans la confession de Bresse, qui se trouve aussi employée dans les Églises réformées des Pays-Bas. Vous ne la trouverez pas non plus dans le catéchisme de Heidelberg, qui est de 1563. Vous trouvez, je crois, il faudrait vérifier, je ne suis pas professeur d'histoire, je crois qu'on ne trouve l'expression alliance des œuvres qu'avec la confession et le grand catéchisme de Westminster, c'est-à-dire début du XVIIe siècle. Et on peut se poser la question, pourquoi y a-t-il eu passage de l'idée de grâce? Le mot alliance de grâce n'est pas employé dans la confession française, dans la Gallicana, comme on dit, de 1559 ou 1571, si on comprend le débat à Paris avec 35 articles ou à La Rochelle avec 40 articles. En fait, généralement, ce qu'on édite comme confession des Églises réformées en France, c'est la confession en 40 articles du synode national de La Rochelle en 1568. Alors, et là, je vous l'ai dit, c'est le mot grâce qui est employé. Il n'y a pas le mot alliance de grâce, mais il est employé que Adam est déchu de la grâce. La chute, sa chute, Adam est déchu de la grâce. Bon. Et alors, le mot alliance des œuvres, on peut se poser la question, c'est ça la question. Pourquoi Westminster, par exemple, a-t-il parlé d'une alliance des œuvres? C'est d'autant plus étonnant que le petit et le grand catéchisme de Westminster, comme la confession de Westminster, sont résolument dans la ligne de la souveraineté de la grâce. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé. Ça, votre question est intéressante, mais voilà peut-être une question qui ferait le sujet d'un excellent mémoire en maîtrise. Quelle est l'origine de l'expression alliance des âmes? Et pourquoi, par exemple, Westminster a été amené à s'exprimer dans cette. Alors, vous voyez, je réponds à votre question sans y répondre. Mais quand même, je vous donne une petite piste en vous disant, ni dans la Gallicana et la Belgica, ni dans le catéchisme d'Heidelberg, vous ne trouvez une idée qui puisse ressembler en quelque chose. Au contraire, la confession de foi des Églises réformées en France affirme nettement qu'Adam est déchu de la grâce. Hein? Et bien alors, vous avez l'apparition. Donc, si vous voulez, vous n'avez pas tout à fait un siècle entre la Gallicana et Westminster, mais pas moins d'un siècle. Mais en moins d'un siècle, on a eu cette idée. Et alors, c'est pour ça qu'on va être conduit à traduire le verbe cum sous sa forme ifil en j'établirai mon alliance au moment de Noé. Puisque c'est la première fois que le mot berit, que le mot alliance apparaît dans le texte hébraïque. Alors, j'établirai mon alliance. Alors que, très souvent, dans sa forme ifile, ce qui est employé pour le verbe paume, c'est au contraire, je ratifierai, je consoliderai mon alliance. Je ratifierai mon alliance. Mais, c'est à mon sens, c'est le point de vue biblique strict, c'est de dire qu'il y a une seule alliance de grâce qui va de la création d'Adam jusqu'à la fin des siècles. Il n'y a qu'une alliance de grâce, il n'y a pas d'autre alliance que ça, l'alliance de grâce. Et cette alliance de grâce, je le répète, comporte un avers évangile et un revers loi qui sont inséparables. Et tout au long de l'alliance, on doit recevoir à la fois l'évangile et la loi et l'évangile. Si on reçoit l'évangile sans la loi, ça ne colle pas, on n'est pas dans le sens de l'alliance. Et si on reçoit la loi sans l'évangile, ça ne colle pas, on n'est pas dans l'alliance. Si on est dans l'alliance, on reçoit ensemble, inséparablement, la Bible, la parole de Dieu, comme évangile et comme loi. Et pas sur tel point c'est la loi, sur tel point c'est la loi, mais dans son ensemble, c'est toujours l'évangile, et dans son ensemble, c'est toujours la loi. Je pense être assez clair là-dessus. Oui. Alors, votre nom, s'il vous plaît.
Bru.
Hein?
Bru.
Voilà, comme ça, petit à petit, je ne sais pas si j'arriverai à connaître vos noms, mais je ne vais pas arriver à savoir qui est chacun. Alors, je vous entends donner une réponse. Et maintenant, Vincent. Alors, allez-y.
Alors, dans ce contexte, comment signifier la distinction qui existe entre la condition d'Adam avant la chute et après la chute? Parce qu'il y a alliance, effectivement, il y a alliance de grâce, mais il y a quand même une distinction en ce sens qu'avant la chute, il pouvait, obéir au commandement de Dieu, il pouvait ne pas pécher, tandis qu'après la chute, il ne peut que pécher. Donc, il a brisé l'alliance, il y a rupture d'alliance, mais est-ce qu'on peut en ce sens, donner le même qualificatif à l'alliance avant et après la chute?
Voilà. Je crois que l'alliance est inébranlable. Elle est immuable avec son côté évangile et son côté. Donc, que ce soit avant la chute ou après la chute, ce point ne bouge pas. Mais, évidemment, pour Adam, éthiquement, non pas métaphysiquement ou ontologiquement, mais en tout cas, éthiquement, tout est changé. Parce que, avant la chute, il est dans l'alliance de grâce, mais il est dans une pleine communion avec Dieu, puisqu'il est fidèle à la foi, à l'évangile et à la loi de Dieu. Bon. Lorsqu'il chute, c'est pour ça que là, c'est bon, il est déchu de la situation qu'il avait de communion avec Dieu dans la grâce. Il est déchu. La chute, c'est ça. C'est le fait qu'Adam est déchu de sa situation de grâce. On aurait dit au Moyen-Âge, on parlait d'état de grâce. Bien, il cesse d'être en état de grâce et il tombe en état de péché en ce sens que le péché domine maintenant sur lui et sur tous les aspects de lui. Alors là, nous touchons un petit point important, c'est que, selon l'Écriture, la chute, le péché, s'étend à tous les aspects de la vie humaine. Ça, c'est un point important, je vais vous dire pourquoi historiquement. Parce que peu à peu, et ça va être développé chez les scolastiques, donc chez les grands docteurs médiévaux, on va concevoir que la chute, le péché, a tout atteint en l'homme, à l'exception de la raison. C'est ce qui va permettre, par exemple, à Thomas d'Aquin de développer l'idée qu'il peut y avoir pour l'homme pécheur, il va pouvoir y avoir pour l'homme pécheur le développement d'une philosophie rationnelle. avec l'idée de Thomas d'Aquin, c'est en philosophie, c'est la raison qui règne. En théologie, c'est la parole de Dieu qui règne. Pourquoi ? Parce que pour Thomas d'Aquin, la chute n'a pas été extensive à tous les domaines de l'homme. Tandis que, suivant cela la Bible, la réforme soutiendra que le péché, la chute, touche l'homme tout entier, dans sa volonté, dans sa raison, dans son âme, dans son corps. L'homme tout entier est devenu pécheur. Donc, la chute, le péché, est coextensif à tout ce qui l'offre. Tandis que on aura l'idée scolastique qui va préparer le monde moderne. Bon, ça semble un peu curieux, quand on discute avec les Romains catholiques, ils ne voient pas ça au premier abord. C'est qu'au fond, Thomas d'Aquin et la scolastique sont les pères, sans l'avoir voulu, je m'empresse de le dire, de la sécularisation moderne. Parce que pour Thomas d'Aquin, la raison de l'homme n'est pas atteinte par le péché. Donc l'homme peut rationnellement, sur le plan de l'intelligence, développer une philosophie. Et ça va continuer. Et l'homme, les théologiens modernes sont rentrés aussi là-dedans. Même Barthes. Karl Barthes, qui quand même, à certains égards, représente une réaction contre le modernisme, Barthes aura cette phrase, il dira, il ne peut pas y avoir de philosophie chrétienne, c'était le point du bas, parce que si c'est une philosophie, elle n'est pas chrétienne, sous-entendu, parce que la philosophie est dominée par la raison humaine. Hein. Donc, si elle est philosophie, elle n'est pas chrétienne. Et si elle est chrétienne, ce n'est pas vraiment une philosophie. Là, c'est l'idée de base. Hein, il ne peut pas y avoir philosophie chrétienne, parce que si c'est une philosophie, elle n'est pas chrétienne, et si elle est chrétienne, ce n'est pas une philosophie. Tandis que pour les réformateurs, c'est monstrueux de dire ça. Parce que, selon la Bible, le péché a atteint l'homme dans toutes ses facultés, dans tout son être. L'homme est pécheur corps et âme. Et il est pécheur dans sa volonté, comme dans son intelligence. Dans ses sentiments, comme dans la vie. Donc, on tient un point là très important. Vous avez déjà dans la scolastique cette idée. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à cette histoire de l'alliance de grâce. Parce que si on pense qu'Adam n'est pas placé par Dieu dans l'alliance de grâce, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire qu'il y aurait eu pour Adam une sorte de situation, en quelque sorte, d'autonomie, où il pouvait pécher ou ne pas pécher. Hein? Non. Adam, tel qu'il a été créé par Dieu, a été créé par Dieu en union avec lui, placé sous sa grâce. Et que ce soit son intelligence, sa volonté, ses sentiments et tout, Adam est en communion avec Dieu. Il est dans un état de grâce, il est en situation de grâce. Et par sa chute, eh bien, Adam s'embarque dans l'éloignement d'avec Dieu, dans la séparation d'avec Dieu. Et c'est ça la mort que Dieu annonce à Adam. Bien sûr, ce sera aussi la mort physique, mais dès l'instant où il prend de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire dès lors qu'il s'érige comme s'il était Dieu pour décider ce qui est bien et ce qui est mal, dès qu'il prétend à son autonomie, là, immédiatement, l'homme est spirituellement mort. La mort d'Adam date de l'instant même où il a mangé l'arbre de la connaissance du mal. Il n'est pas encore mort physiquement, il mourra physiquement, mais il est déjà mort spirituellement. Parce qu'il s'est coupé de Dieu. Il s'est écarté de la grande tranche. Attendez, quelqu'un de moi, vous avez demandé la parole.
Non, c'était juste pour faire deux remarques.
Il faut que je prenne. Franchement, excusez-moi. Et là, comme ça, je veux savoir. Bon, donc je vois.
Triquenot.
Je vois qui est Vincent Bourru.
Triquenot. Hein? Triquenot. Sylvain. Vers la fin, avant-dernier, quelque chose comme ça.
Triquenot, voilà, Sylvain Triquenot.
Alors, c'est juste pour deux remarques, en fait, un peu pour répondre à Raymond tout à l'heure. Je pense qu'il faut plus on parle même dans les, parmi les réformés plus de, d'alliance de création et d'alliance de rédemption plus que de distinction entre grâce et œuvre. Parce qu'il y a aussi ceux qui parlent d'alliance des œuvres, parlent aussi d'alliance de vie. Préfèrent. C'est juste une question de terminologie, je pense, qui est maladroite. Mais ils sont en général assez d'accord sur le comportement d'Adam et sa situation avant la chute. C'est juste un problème terminologique.
Eh bien, je vous remercie beaucoup. Vous venez de répondre, comme moi je n'ai pas pu le faire, de répondre à la question précédente. En ce sens qu'en effet, on peut parler, non pas d'une alliance des œuvres et ensuite d'une alliance de grâce, mais on peut parler d'une alliance de grâce qui est d'abord l'alliance de grâce et ensuite, après la chute d'Adam, la même alliance de grâce va devenir alliance de rédemption. Parce qu'à partir de ce moment-là, il faudra le sang pour expier le péché. Hein? Autrement dit, il faudra une rédemption. Parce que c'est ça la rédemption, c'est le rachat par le sang. Hein? Il faudra Jésus-Christ, à partir de là, on entre dans le domaine où Jésus-Christ vraiment devra s'incarner et devra mourir sur une croix et verser son sang pour, en expiation des péchés, pour le rachat du péché.
Et la deuxième chose,
disons, alliance de création, premier stade, et alliance de rédemption après la chute.
Et la deuxième chose, ce serait par rapport à la loi évangile, est-ce qu'on ne pourrait pas voir l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme la loi et l'arbre de la vie, comme l'évangile est en communion avec Dieu. Et donc il se prive de cet arbre de vie qu'il avait déjà, puisqu'il pouvait, enfin moi, je, bon, c'est mon interprétation, puisqu'il pouvait manger tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il pouvait aussi manger de l'arbre de vie, qui était communion avec Dieu. Et donc en fait, il ne prend que la loi et refuse l'évangile.
Oui, et attention.
Enfin, en prenant que la loi,
en
désobéissant à la loi, se prive de l'évangile, ouais. Quelquefois. On peut presque voir ça comme ça.
Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon, on peut tout à fait dire ça. En effet, au fond, il y a deux arbres mystérieux. D'ailleurs, je pense, j'ai pas le temps de développer ça, mais tous les arbres, ça c'était l'interprétation de la plupart des pères, et en tout cas c'était l'interprétation des réformateurs, mais en particulier de celui qui sur ce point le plus développait les choses, et qui est Pierre Viret, le réformateur d'Orbe. Et Pierre Viret parlait tous les arbres, tout en étant réellement des arbres, sont sacramentaux. C'est-à-dire qu'ils ont une signification mystérieuse au-delà d'eux. Si bien qu'on peut penser, par exemple, manger de tous les arbres du jardin, c'est une manière aussi symbolique de marquer, symbolique, qui n'ôte pas la réalité des arbres. Mais c'est une manière symbolique de dire, tu peux faire tout. Tu peux entrer dans tous les domaines des sciences, dans tous les domaines des arts, dans tous les domaines des philosophies, tu peux entrer dans tout, tu peux manger des arbres. Mais, tu as besoin, en effet, et de l'évangile, et on peut penser à l'arbre de vie comme arbre sacramentel de l'évangile, et puis tu ne dois pas prendre de l'arbre de la question du bien et du mal, on peut voir l'arbre de la question du bien et du mal comme l'arbre sacramentel de la loi. Donc, je veux dire, on peut réfléchir, en tout cas, dans ce sens-là, ça me semble tout à fait légitime. Et vous avez levé la... vous avez voulu parler aussi, non ?
Oui.
Alors, votre nom à vous ?
Rousseau. Bernard.
Oui, je peux bien vous avoir. Ah non. Excusez-moi. Ah si. Bernard Rousseau. Bon, alors ça y est, maintenant, il y en a quatre que je commence à gagner. Bernard Rousseau.
Oui, donc je voulais en fait juste savoir si, si vous pensez, si vous estimez à la suite de Martin Luther et donc à l'encontre de Jean Calvin, que l'homme a été créé saint. Que Jean Calvin lui pensait que l'homme avait besoin de, d'obéir en vue de l'acquisition d'une béatitude éternelle. Il pensait que l'homme était sain dans toute sa plénitude dès le départ.
Oui, c'est-à-dire que Dieu crée l'homme dans une situation d'innocence, de sainteté, et au départ, l'homme est vraiment tel que Dieu veut qu'il soit. Et au fond, d'une volonté préceptive, hein, je ne parle pas de la volonté décrétive de Dieu, mais c'est selon la volonté préceptive de Dieu, Adam est bien comme Dieu veut qu'il soit. Au départ, d'ailleurs, il est dit, Dieu vit, tout cela était bon, hein, c'est dit à plusieurs reprises, et puis après la création de l'homme, tout est très bon. Donc ça va. Autrement dit, il n'y a pas dans la création de Dieu, y compris l'homme en image de Dieu, il n'y a pas la moindre faille, il n'y a pas le moindre défaut. Ce qui rend, je répète, c'est précisément ce qui va rendre le péché inexplicable et inexcusable. Comment l'homme, créé ainsi par Dieu, dans cette situation d'innocence et de sainteté, comment va-t-il déchirer?
J'entends bien qu'il est créé en état d'innocence et de sainteté, qu'il y a tout est très bon, mais l'homme n'a pas à accomplir quelque chose. L'homme n'a pas à réaliser l'obéissance du gouvernement.
Ah si, parce que qu'est-ce que c'est que la sainteté? La sainteté, c'est de,
donc, il n'a pas la sainteté.
De continuer, n'est-ce pas, l'homme à poursuivre et à continuer à être ce qu'il est, ce que, l'homme tel que Dieu l'a créé. Il doit continuer. Et il continue précisément en...